Je laisse maintenant la parole à Madame Joyce Hayek.
Merci. Alors, je remercie Psychanalyse Magazine de m'avoir fait l'honneur de me convier parmi des auteurs aussi connus. Je ne les cite pas tous. Sur ces deux jours, il y en a énormément qui ont écrit des livres extrêmement célèbres. Et donc, où je suis un petit peu intimidée d'être parmi eux. Mais je veux croire que je dois cette distinction au fait que j'ai moi-même, depuis plus de 25 ans, organisé des rencontres dans la région toulousaine avec l'école des parents et des éducateurs et aussi l'association Carrefour et Médiation. Alors c'est amusant parce que entre deux, mais je vais peut-être vous y envoyer, comme ça vous ferez un petit tour aussi à l'école des parents et des éducateurs, dans le même temps se déroule à deux rues plus loin un congrès donc de la Fédération des écoles des parents et des éducateurs sur le thème famille-mémoire. Alors vous allez voir que je vais moi-même faire un petit peu écho à cette idée-là qui est de l'ordre de la transmission. C'est le nom de notre dernier livre. Je dis notre dernier livre parce que je suis en fait uniquement directrice de la collection et donc du livre et non pas l'auteur seul, je dirais heureusement. Il y a dans ce livre plusieurs auteurs qui interviennent et qui disent des choses extrêmement intéressantes aussi. Alors je répète, je les citerai pas tous, mais il y a Didier Houzel, Boris Cyrulnik, Bernard Gols, des gens avec lesquels je travaille depuis bien, bien longtemps. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est combien le champ de la psychosomatique de l'enfant est une préoccupation toujours d'actualité et combien les travaux de Winnicott sont présents et actuels dans cette démarche. Depuis l'ouvrage fondateur « L'enfant, la psyché et son corps », des observations pédiatriques ont nourri une réflexion psychanalytique qui a permis de dégager des conceptions théoriques de portée générale. Et je ferai référence là à deux thèmes qui sont souvent repris, l'enfant du jour, l'enfant de la nuit et la censure de la menthe. Mais je développerai pas du tout ces deux thèmes, sauf si vous me sollicitez dessus. Ce sont des idées et des théories qui ont été lancées par Léon Kressler, Michel Fain, Evelyne Kestenberg. Et actuellement, je dirais que ces théories ont un impact jusque dans le monde pédiatrique où elles ont aidé à traiter les troubles du sommeil. Alors aussi la compréhension des troubles du sommeil sur le plan psychosomatique, bien entendu. Alors, la psychosomatique des bébés offre par ailleurs un terrain inestimable de réflexion et de questionnement en ce qui concerne le développement psychique. Ces interrogations paraissent d'autant plus d'actualité que les nombreux travaux qui sont réalisés et qui ont été réalisés durant les dernières décennies à propos des compétences des nouveau-nés, vous savez, Brazelton, Stern, etc. Et toutes ces notions contribuent quand même à réviser les concepts psychanalytiques et même à remettre en question certaines des théories. Alors, je prendrai par exemple Daniel Stern, qui cherche à réaliser une synthèse, on dira, des notions des psychologues ou des observations des psychologues comportementalistes, développementalistes, expérimentalistes. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué et un peu contradictoire. Alors, Daniel Stern essaye de faire une sorte de synthèse et du coup, eh bien, il remet en question avec ses propres expériences sur le lien intersubjectif, interrelationnel, mère-bébé. Il remet en question, y compris les théories de Freud et de Melanie Klein, sur lesquelles tout de même le monde psychanalytique s'appuie encore beaucoup. Alors moi j'aime bien quand on remet en question, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, intervenez, réagissez, parce que ça me porte beaucoup plus. Alors, par contre, un autre changement auquel je voudrais faire allusion tient au fait que les psychothérapies d'enfants actuellement sont devenues la principale source de nos connaissances actuelles. Je parle des psychothérapies parce que Kressler, Fain et Soulet travaillaient surtout sur des consultations diagnostiques et maintenant, enfin diagnostic ou d'investigation. Et maintenant, avec l'aide depuis une bonne vingtaine d'années de Rosine Debray et Serge Lebovici, nous travaillons sur des consultations thérapeutiques et nous observons des mouvements au cours des thérapies, parfois de longue durée ou bien des thérapies brèves, mais on va faire la différence entre les deux. Alors, nous avons, avec l'IPSO, avec un certain nombre de thérapeutes, d'abord mère bébé, puis maintenant parents bébé, c'est-à-dire qu'il y a la triade, nous avons développé des techniques dont je vais essayer de vous montrer un exemple pour le cas de la petite anorexique dont je vais vous parler. Et j'espère que ça éveillera en vous des questions qui nous animeront. Enfin, alors c'est pour ça que je vous parle de ce cas, l'actualité maintenant en psychosomatique, c'est que nous voyons des enfants de plus en plus jeunes, voire des tout petits bébés. On sent que un certain nombre de résistances se sont levées et on peut considérer assez tôt que les bébés peuvent avoir besoin d'une aide psychothérapeutique, hein, pour la relation mère-bébé ou parent-bébé. Alors, je vous parlerai d'une anorexie sévère qui semble s'être développée si tôt dans la vie qu'elle pourrait presque être considérée comme étant néonatale. Et je voudrais un petit peu la nommer, en paraphrasant Marie-Claire Sellerier, comme une sorte de maladie d'emprise dans une confusion mère-bébé. Alors, pour illustrer ce vécu devenu conscient chez une jeune mère en difficulté, une autre, hein, là aussi qui était en difficulté avec son bébé gravement anorexique et qui n'avait pu, lui, être maintenu en vie dès le cinquième jour après sa naissance que par une sonde gastrique qui a dû être posée et maintenue plusieurs mois. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué, hein, à gérer avec un bébé qui rentre et sort de l'hôpital, vient aux séances, avec, bien sûr, avec sa maman. Là, c'était avec sa maman seule. C'est compliqué parce qu'on a sans cesse la menace de mort sous les yeux, puisque la sonde, on ne peut pas l'oublier, hein, dans les séances. Et on voit bien que c'est comme ça que le bébé est maintenu en vie, et sinon, il pourrait mourir, hein. Donc, je citerai les mots de cette maman à l'issue de cette difficile lutte contre la mort. Elle disait « Si j'ai tellement peur que mon bébé meure, c'est peut-être parce que je ne suis pas sûre de vouloir qu'il vive. » Et puis, elle concluait elle-même à la fin de la thérapie en disant que pour naître, vivre et exister, il faut passer très près de la mort. Alors, en effet, peut-être que l'individualité psychique émerge, comme la vie, dans un sursaut violent pour échapper au danger, à la terreur de l'engloutissement dans l'emprise maternelle. C'est ainsi qu'il m'a été donné l'occasion d'accompagner pendant 18 mois la petite poussette et avec ses parents. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai donné ce surnom à la minuscule fillette de 5 mois qui me fut amenée il y a quelques années à la suite d'une hospitalisation après 48 heures où elle avait complètement refusé de s'alimenter. Alors, bien évidemment, j'ai déguisé autant que j'ai pu les traits de la thérapie, mais j'ai gardé l'essentiel de manière authentique, hein, pour que des raisons de confidentialité évidentes. Alors, lors de la première consultation, c'est pourtant la maman de Poussette qui m'inquiète le plus, et je dirais qu'il s'agit d'une jeune femme qui m'apparaît tendue, les larmes aux yeux, et qui me donne le sentiment de lutter désespérément contre une menace d'effondrement imminente. Elle tient son bébé face à moi, sans paraître s'intéresser à lui, en me donnant l'impression que Poussette ne peut être confortable ni dans ses bras, ni même en sécurité dans ses bras. Le papa est grand, d'allure sportive, et il semble se considérer comme étranger à la situation. Ce n'est pas fréquent, hein, je le note particulièrement parce que ça va vous éclairer ensuite sur la question de l'emprise. Il sera peu présent. D'une certaine manière, il sera présent en pointillé. Et au cours de la thérapie, il exprimera une fois que ce sont des histoires de femmes, car avec lui, Poussette est plus docile et elle accepte parfois de prendre un biberon. Mais il est représentant de commerce et de ce fait, il est peu présent. Je pense que ça l'arrange beaucoup et il marque ainsi sa distance. Excusez-moi, biberon. Voyez, ça fait un effet immédiat. J'ai besoin du mien. Pardon. Selon sa mère, Poussette a d'emblée refusé le téter au sein. Et elle a montré également peu d'appétence pour le biberon, ingurgitant difficilement de faibles quantités de lait. Perdant progressivement du poids, il faut l'hospitaliser dès le 7e jour, c'est-à-dire qu'elle est sortie, mais qu'il a fallu très vite la réhospitaliser. La maman apparaît comme blessée que son bébé, qui est un premier bébé, ait refusé le sein, surtout. Hein, et quand elle parlera du biberon, vous verrez par la suite une sorte de sentiment de victoire dans le sens, même le biberon, hein, elle le refuse. Dès qu'elle est hospitalisée, Poussette retrouve en une semaine le poids de naissance et elle peut donc ressortir. Elle retrouve sa famille. Mais les refus d'alimentation se reproduisent dans une sorte de bras de fer avec sa mère, qui exprime au cours de cette première séance son sentiment d'être découragée et totalement débordée par ce bébé. Alors, dans cette première rencontre, je vais être amenée à rentrer en contact avec Poussette. C'est ce que je fais de façon quasi régulière. J'essaye d'avoir un premier contact avec le bébé sans pour autant prendre moi-même le bébé dans les bras. Hein, je m'interdis, sauf si la maman ou les parents me le demandent, je m'interdis de prendre moi-même le bébé. Mais j'essaye d'avoir quand même un contact avec le bébé. On en parlera, c'est au niveau de la technique, on essaiera d'échanger là. Alors, à ce moment-là, c'est parce que sa maman la pose un instant sur le divan, comme si elle était devenue soudain très lourde à porter. Ce mouvement se produit alors que madame, on va l'appeler madame P, si vous voulez bien, est en train de me raconter combien les soins qu'elle donnait elle-même, il y a plus d'un an, à sa propre mère malade, lui étaient pénibles. Pendant qu'elle me raconte cela, moi je m'approche du divan et je m'assois auprès du bébé, tout en faisant face aux parents. Poussette se présente comme un bébé maigrichon, mais éveillé, immobile, et son regard brun se fixe immédiatement sur mon visage, et elle va saisir vigoureusement mon doigt que je lui tends, pendant que sa maman continue de me relater les circonstances de sa première hospitalisation. De poids normal, 3 kilos, et de taille normale aussi à la naissance, son état s'est dégradé très rapidement, provoquant l'inquiétude de l'équipe pédiatrique qui a engagé alors de multiples examens intrusifs, fibroscopie d'abord, puis dans un second temps, biopsie duodénale, c'était là la rechute, je dirais, du premier mois. Alors, ce cas est quand même assez ancien. Actuellement, les équipes pédiatriques acceptent mieux l'idée qu'il puisse y avoir une anorexie du bébé, du nouveau-né. Mais il y a encore une dizaine d'années, c'était quasi impensable. Hein. On n'imaginait pas du tout qu'un bébé puisse présenter un trouble psychosomatique de ce type. Et avec cette gravité. Hein. Je dirais que certains bébés se laissent quasiment mourir. Il faut être très vigilant. Peu après, alors que je suis revenue à mon siège, donc un peu à distance, J'observe que Poussette joue avec son bavoir, puis se met à sucer énergiquement deux doigts de sa main gauche, montrant ainsi que la cavité buccale est un lieu auto-érotique investi, même si elle est un lieu de conflit lorsqu'il s'agit de manger. La mère précise sur ma demande qu'elle n'a rien repéré qui puisse expliquer le fait que Poussette ait brusquement cessé d'absorber toute nourriture pendant 48 heures. Je dirais que la mère, au début, n'a pas tellement envie de se confier. Elle apparaît très déprimée et elle semble penser que cet entretien ne va déboucher sur rien. Hein. Elle reste très coopérante, je veux dire qu'elle répond aux questions, mais elle-même ne fait pas d'association, elle ne fait pas vraiment de lien. Alors, par contre, je crois qu'on peut noter qu'il s'agissait là d'une répétition d'un comportement apparu à la fin du premier mois et au troisième mois. Et à chaque fois, ça avait donné lieu à des hospitalisations au cours desquelles la mère signale, et alors avec cette satisfaction que je vous notais tout à l'heure, que Poussette semblait mieux, ne semblait pas mieux s'alimenter, oui. Elle était en fait très contente de dire, mais regardez, ils arrivent pas. Elle ne le disait pas comme ça, mais ça ressemblait à ça. Regardez, ils arrivent pas mieux que moi. Elle peut pas finir ses biberons. Et pourtant, c'est en raison de la reprise de poids que Poussette peut revenir dans sa famille, chez ses parents. Alors, il nous semble important de noter que les particularités individuelles sont très importantes à repérer et il faut en tenir compte. Il existe ainsi des bébés à petit appétit, comme il existe des bébés, puis des enfants, gros mangeurs. Avec la nourriture, cependant, comme avec les rythmes du sommeil, bien que de manière différente, la réponse de l'environnement paraît décisive. Surtout, quant au devenir de ces particularités qu'on peut considérer comme constitutionnelles. Il est vrai que la situation alimentaire paraît étonnamment propice pour que s'y joue et s'y noue électivement les tout premiers conflits d'opposition et pour qu'éventuellement ils risquent de s'installer. Je crois que la réponse va être importante, la réponse qu'on va apporter à ce comportement. En fait, c'est une situation quasi expérimentale où se met en scène le jeu complexe du passage de la position passive à la position active et inversement chez le bébé et chez la maman ou le substitut maternel. Et en fait, il s'agit de la réaction de la personne qui nourrit le bébé. Le rythme d'absorption du bébé règle en principe celui de la tétée. Alors, c'est évident au sein, mais au biberon aussi. Et encore plus lorsqu'il s'agit de manger à la cuillère. Mais toutes les conduites de ce forçage peuvent s'observer selon le moment et selon la plus grande ou moins grande disponibilité de la mère. Certains bébés y sont extrêmement sensibles et répondront par d'immédiates difficultés à ce qu'ils sentent être l'énervement ou l'irritation de leur mère. Dans les cas les plus fréquents, il s'agit et il suffit de changer d'interlocuteur et que par exemple le repas soit donné par le père et les difficultés s'apaisent. Mais pour certains, le temps du repas pourrait devenir le lieu privilégié d'un conflit sans cesse répété pouvant amener un tableau d'anorexie comme celui que je vous présente, c'est-à-dire assez grave. En ce qui concerne le terme d'anorexie, je voudrais souligner qu'il peut recouvrir des manifestations différentes, voire opposées. Il y a toute une graduation hein, de l'enfant qui ne va pas vouloir manger à l'enfant qui va manger goulûment mais qui va tout vomir. Vous voyez qu'on va d'un extrême à l'autre, on appellera cela l'anorexie quand même. Alors, évidemment, dans ce cas, les réponses de l'environnement vont être variées, devront s'adapter. Et je rappelle donc que certaines formes d'anorexie grave peuvent engager le destin, en fait, le pronostic vital du bébé, et il ne faut ni l'oublier, ni le négliger. Cela aurait pu être le cas de Poussette, mais cette psychothérapie de la triade, je dirais papa, maman, bébé, triade, même si papa n'a pas été très présent, cette psychothérapie a duré 18 mois et s'est révélée particulièrement intéressante quant à l'observation de ce qui m'est apparu progressivement comme l'évolution des caractéristiques constitutives de ce bébé. En fait, c'est ce qu'on peut penser être les caractéristiques de départ du bébé vont se trouver prendre une intensité particulière à cause du contexte affectif de la maman et dans tout le vécu qui a présidé à la naissance de Poussette, comme vous allez le voir. Car le récit de cette douloureuse histoire va occuper la plus grande partie de notre travail thérapeutique. La mère de Poussette est la sixième d'une longue lignée de filles dans un couple qui s'est obstiné à avoir au moins un garçon. Celui-ci va naître après la maman de Poussette. Il va naître un an après, je crois. Son père est décédé quand elle était adolescente et sa mère est morte d'un cancer juste un an avant la naissance de Poussette. Je dirais que Poussette serait, comme le dit par ailleurs Monique Bidlowski, une sorte d'enfant réparation, enfant anniversaire, enfant bonbon. L'horloge interne a certainement fonctionné, enfant de remplacement. Et cette maman, donc la grand-mère de Poussette, avait eu une longue agonie pendant laquelle il avait fallu la nourrir comme un bébé, dit Madame P. Et elle confie, elle complète en disant « elle me bouffait la vie ». C'est en fait elle qui la nourrissait dans toute son agonie. Alors Madame P garde un souvenir marqué par l'évolution cachectique de cette femme qui était auparavant obèse. Et elle dit déplorer que sa fille, à qui elle a donné le prénom de sa mère, ne soit pas aussi forte, dit-elle, que celle-ci. Et elle utilise dans cette expression poids et force, comme si les deux mots étaient équivalents. Alors le père a participé au premier mois de la psychothérapie, puis il n'y est revenu que le dernier mois. Quand il était présent, il faisait sans cesse jouer sa fille dans le but évident que j'écoute sa femme et le laisse tranquille. Au fil de la thérapie, le comportement anorectique sévère que présentait l'enfant s'est progressivement atténué. Et je dirais que il y a un moment très fort que j'observerai en séance, c'est lorsque la maman de Poussette coupe des petits morceaux de pain qu'elle met à côté du bébé et que Poussette va manger très soigneusement, va prendre très soigneusement, je dirais qu'elle picore. Hein. En fait, c'est un petit peu comme si elle nourrissait un petit oiseau. C'est très émouvant, c'est un moment très émouvant où effectivement l'anorexie commence à se régler et à être moins pesante. Mais ce comportement s'est aussi révélé n'être qu'un mode de fonctionnement beaucoup plus global, traduisant une intolérance fondamentale à être manipulé ou forcé en quelque manière que ce soit. C'est un comportement très curieux à observer chez un bébé aussi jeune, car je dirais que ça m'a amené à penser qu'elle était en quelque sorte, et c'est le mot de Rosine Debré, un bébé qui ne supportait pas l'état de bébé. Alors c'est une situation hautement paradoxale et difficile à négocier, en effet, pour un bébé. Mais voilà ce qui se passait. Poussette pouvait pousser de véritables hurlements et se raidissait complètement comme lorsque, dans les périodes anorexiques, on voulait la forcer à manger. Et dès que sa mère, donc elle faisait de la même manière, dès que sa mère voulait, pour la changer, l'allonger sur le dos. Alors, la maman, en ayant parlé en séance, on a essayé de se demander ce qui se passait, bien sûr, on a travaillé dessus, et puis elle a essayé de changer le bébé, enfin autant que c'était possible, en position debout. À 6 mois, en séance, dès qu'elle est assise par terre au milieu de cubes, si je lui tends un de ces cubes dont elle est entourée, elle le rejette au loin pour aller le chercher ensuite à quatre pattes et donc le reprendre elle-même, marquant ainsi que c'est elle qui décide. Alors vous noterez qu'elle est très précoce, parce qu'à 6 mois, elle marche quasiment à quatre pattes. Vous verrez que la précocité aura suivi après. Mais même vers un an, si on veut la mettre au lit sans drame, il faut lui proposer, en quelque sorte la prévenir, et attendre qu'elle fasse un signe indiquant son assentiment. Alors je ferai référence, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la pouponnière de l'Oxy. Il y a eu quelques documentaires à la télévision. On montre bien comment les nurses qui ont affaire là à des bébés qui sont pris dans ce qu'on pourrait appeler les troubles de l'attachement. Ce sont des bébés qui ont été ou abandonnés ou dont les parents ont disparu, sont morts, etc. Donc des bébés qui sont recueillis dans une situation dramatique. Et on peut observer dans ces films très très bien filmés par Martineau comment les nurses vont toujours commencer à parler au bébé, à lui expliquer ce qu'elles vont faire avant de procéder au bain, au nettoyage, au change ou même à la prise du biberon. Et c'est tout à fait intéressant à remarquer. La maman ne faisait pas comme ça, vous vous en doutez. Et il y avait une véritable lutte entre les deux. La maman pouvait dire à certains instants, ça m'avait frappée, elle est indépendante. En parlant de sa fille, elle est indépendante à mort. Alors, on peut s'interroger sur la valeur de ces tentatives de ce bébé pour tenter d'instaurer une sorte de maîtrise sur une situation qui, dans son ensemble, le déborde et le dépasse complètement et dépasse ses possibilités actuelles de contrôle. Et c'est pourtant par ces voies-là qui a engagé la motricité et le monde relationnel sur un mode où prédominaient le refus et l'opposition, que Poussette m'a paru s'organiser, fuyant ainsi la situation d'emprise ou la contrainte initiale à laquelle elle avait répondu essentiellement par son dangereux symptôme d'anorexie. Son développement moteur va être, comme je vous disais tout à l'heure, stupéfiant de rapidité. À 9 mois, alors qu'elle est toujours très petite et très fluette, elle se met à marcher seule, sans appui, et file d'elle-même de la salle d'attente à la salle de consultation, sans sembler se préoccuper le moins du monde que sa mère ou moi nous la suivions. Dans l'intervalle, elle s'est mise à s'alimenter presque normalement, à condition toutefois que sa mère respecte ses mouvements rituels d'opposition. Il y avait toujours, au début de tout moment de nourrissage, un premier refus. Il était important que sa maman attende et recommence. C'est un peu comme les enfants qu'on voit couramment lorsqu'ils arrivent au 18e mois, qui disent non. Non, alors qu'ils ont très envie de faire ce qu'on leur propose, mais ils vont dire non avant. Mais elle, c'était de manière extrêmement forte et bien avant, bien plus tôt. Elle va conserver un petit poids tout de même, comme si la nourriture ne lui profitait pas. Car même si elle avale, par la suite, c'est pour ça que je vous disais, il faut bien moduler l'anorexie, elle avale de grandes quantités que sa mère juge énorme, elle dit, c'est son mot, elle reste maigre, maigrichonne, car elle fait en même temps, toujours le mot de la mère, d'énormes selles, comme si, et ça c'est encore la phrase de la mère, les aliments ne font que passer et ne lui profitent pas. À 13 mois, brusquement, pendant un week-end, Poussette refuse à nouveau toute nourriture pendant 48 heures. Quand je dis toute nourriture, c'était véritablement rien. Il y avait un jeûne total, et avec bien sûr la panique autour. La famille traverse à ce moment une période dramatique, car le grand-père paternel a fait un accident cardiaque et va mourir brutalement. Lors de ce nouvel épisode d'anorexie, la maman observe finement le comportement contradictoire de Poussette, qui apparemment meurt de faim et dans le même temps serait dit en une position indépassable de refus de toute nourriture. Je vous signale cela parce que ça montre une évolution dans la capacité d'observation de la maman qui peut à ce moment-là voir qu'il y a contradiction dans le jeu de sa fille. Hein, c'est nouveau. Hein. Et d'ailleurs, l'issue se fera tout simplement en laissant un biberon posé sur une petite table et Poussette laissée seule dans la pièce. C'est donc le bébé qui va décider de boire son biberon tout seul. À 18 mois, alors que Poussette commence à aller sur le pot et contrôle assez bien ses émissions d'urine, elle va brusquement développer une sorte de phobie du pot avec à nouveau hurlements, raidissements et des plaintes que la mère observera et qu'elle va rapporter au fait que l'enfant garde ses selles. Donc, elle dira, elle a mal au ventre parce qu'elle retient ses selles. Il y a là un mouvement qui m'apparaît comme une phobie de la défécation. La problématique centrée sur ce qui rentre et qui sort du corps étant alors brusquement déplacée sur la zone anale. Cette phobie va céder aussi rapidement que la brusque rechute de l'anorexie, et ça va intervenir lorsque sa mère en séance va se souvenir des manœuvres anales que sa propre mère effectuait quand elle-même était constipée. Ça pouvait être les suppositoires, le thermomètre qui étaient utilisés comme stimulants de la défécation. Elle-même avait donc eu aussi, on pourrait dire, un épisode de constipation tenace. À ce moment, on peut observer que les jeux en séance se centrent autour de deux pôles. D'abord, le jeu de coucou, c'est un jeu qu'on voit toujours apparaître dans les thérapies. Et là, c'était dans le placard, dont la porte a pu être progressivement plus ou moins fermée, donc la porte ouverte, fermée, rentrer, sortir du placard. Et mes interprétations portaient à ce moment-là sur l'objet absent, présent, le tout étant ramené à entrer, sortir, manger, ne pas manger, manger, faire caca, ainsi de suite. Donc cette apparition, disparition des selles qui, pour tout enfant, est un moment difficile à traverser. D'autre part, il y avait un jeu très particulier. Pour cet enfant agile sur le plan moteur, ce jeu consistait à escalader la barrière du petit lit à barreaux, qui est aussi dans la pièce, pour se jeter ensuite dans le vide, de façon tout à fait dangereuse et ne mettant nullement en doute le fait que j'allais effectivement la recevoir dans mes bras. Alors bien sûr, je verbalise le caractère dangereux de cette activité et je note qu'elle est marquée par la toute-puissance magique de l'omnipotence infantile, mais elle trahit, me semble-t-il aussi à ce moment-là, une sorte d'aspect extrémiste ou un défaut d'instinct de conservation. Là, c'est quelque chose qui pose question et dont on pourra peut-être discuter si vous voulez. Parallèlement à l'évolution de Poussette, la mère va faire pour son propre compte un travail réel concernant non seulement sa compréhension de sa fille, mais aussi de sa propre histoire et de la situation douloureuse et du deuil ayant précédé la naissance de son bébé. C'est ainsi que la conjonction entre son propre état dépressif et les caractéristiques personnelles de son bébé s'éclaire d'autant plus nettement que ce sont des éléments similaires qui reviennent à chaque période de tension. Alors, c'est là que Madame P va se souvenir, en effet, d'avoir traversé, elle aussi, je dirais, un épisode d'alternance boulimique et anorexique à son adolescence et plus précisément lors du décès de son père. Ayant ainsi vécu enfant sous l'emprise d'une mère insaisissable, renforcée par l'absence du père, elle avait ressenti la rupture d'équilibre de la poussée pulsionnelle de la puberté et la transformation de l'image de son corps comme une nouvelle contrainte insupportable dont elle était déterminée à se dégager. Alors, je ne sais pas bien combien de temps il me reste. J'ai peut-être bavardé un peu trop. Je ne sais pas s'il ne faut pas m'arrêter. Alors, il y a... Bon, d'accord, merci. Alors, la relation transférentielle, peut-être rapidement, je vais essayer de passer vite là-dessus. La relation transférentielle me paraît quand même importante parce que c'est là que les choses se sont jouées. C'était une relation tout à fait nouvelle pour cette maman, pour cette femme. Il est apparu qu'elle avait toujours, c'était important pour elle de toujours garder à distance ses objets privilégiés. Alors parents, puis après mari, et elle avait le sentiment qu'il était important qu'elle ne soit pas envahie ni engloutie. Alors ce mode de lien me paraît être à l'image de ceux décrits avec des parents peu chaleureux, peu disponibles. Je vous rappelle qu'ils étaient quand même 7 enfants. Alors, certaines familles de 7 enfants n'ont pas de problème, mais là, ça avait dû peser lourd, d'autant que la maman s'était retrouvée quand même assez tôt seule. Son mode d'être à la maman semblait de ce fait marqué par une intolérance à la dépendance pour elle-même, dont sa fille avait hérité, mais qui paradoxalement avait rendu leurs premiers échanges aussi difficiles. Et c'est à ces difficultés même qu'elle devait de s'être lancée dans un travail psychanalytique qu'elle n'aurait sûrement pas envisagé sans ça. Alors ça, c'est le bon côté, hein. Je crois que ça lui a permis à elle de se dégager pour elle-même. Mais du coup... Lorsque Madame P s'est sentie rassurée dans sa capacité à comprendre sa fille, elle a pu alors aborder sa relation, sa vie relationnelle avec son mari, avec plus d'autonomie et plus de souplesse. C'est-à-dire qu'elle a commencé à envisager, par exemple, de pouvoir travailler, hein, ce qu'elle ne faisait pas avant. Alors, très rapidement, du côté de l'enfant, un certain nombre de signes positifs m'ont permis de considérer la psychothérapie comme satisfaisante. Il y avait d'abord cette nouvelle capacité à dire oui quand on lui disait pas oui comme ça, hein, mais elle faisait signe. Quand on lui proposait quelque chose qui pouvait lui plaire, là, elle acceptait. C'était tout à fait nouveau parce qu'elle y mettait un plaisir évident. Et ça, c'était un certain nombre d'autres modifications étaient intervenues, mais ça, c'était tout à fait notable. Alors, il y avait aussi ce qui avait changé, parce qu'initialement, elle ne supportait pas les contacts ou les caresses et les manifestations de tendresse. Elle repoussait son père lorsqu'il cherchait à la câliner. Et là, à présent, selon le moment, elle cherchait au contraire elle cherchait le contact avec lui, réclamant parfois que ce soit lui qui la couche, ce qu'il faisait lui aussi avec un certain plaisir. Je vous signale donc le changement aussi du côté du père. Alors, il se mettait à revenir à la thérapie et il me racontait ce plaisir qu'il éprouvait à coucher sa fille. Autre nouveauté, ce n'est qu'après de 2 ans que Poussette a accepté pour la première fois, et lorsqu'elle était fatiguée seulement, que sa mère ou son père lui donne à manger à la cuillère. Jusque-là, c'était elle, il n'y avait qu'elle qui décidait de ce qui entrait ou non dans sa bouche. Alors, je pourrais multiplier ces signes, mais je vais essayer de garder du temps pour qu'on échange. Je crois que cette évolution marque l'accession à la position passive, toujours pour avoir ce va-et-vient entre position passive et active. Cette position n'étant quand même possible que pendant les moments de détente, parce que dans les moments où la tension revenait, soit chez papa, soit chez maman, soit même chez l'enfant lui-même, on retrouvait des attitudes de raidissement et d'opposition. Ça revenait assez facilement et ça semblait être à ces moments-là indépassable, mais ça cédait rapidement. Alors, l'évolution ultérieure de cette petite fille dépendra bien entendu de sa capacité à négocier et à aménager une position initiale constitutive aussi prégnante. Mais ce qui, à mon point de vue, n'a pu se faire au cours de ses 2 premières années de vie qu'avec l'aide efficace et à la compréhension de sa mère, elle-même soutenue par la thérapie. Alors, il y a plein de questions qui sont soulevées, particulièrement celles des très jeune bébé qui s'embarque dans une sorte de bras de fer, comme j'ai dit, et d'emprise mutuelle, puisque à ce moment-là, la maman aussi était sous emprise, puisqu'elle ne pouvait plus penser à autre chose qu'à ce problème avec son bébé. Donc il y a là une sorte de lutte entre ce qu'on appellera le tonus de vie et puis ce qu'on pourrait appeler aussi les forces de déliaison. Freud a appelé ça les pulsions de mort. Bon, ça aussi on peut le discuter, c'est à revoir. Ça fait partie des concepts que je vous ai dit qui sont à rediscuter. Alors je vais conclure très rapidement. Je voudrais simplement dire que dans un tel état de crise qui renvoie peu ou prou à la notion d'urgence, ce fut quand même le cas de Poussette. Et c'est d'ailleurs pratiquement la règle dans les traitements de ce type d'anorexie. On se trouve dans des atmosphères dramatisées parce qu'il y a les résistances de la mère et du père qui ne vont pouvoir être levées que dans la mesure où il y a vraiment une menace et assez immédiate. Alors, ceci a pour conséquence que je dirais que je suis assez attentive à ce que j'appellerais la blessure narcissique pour la maman. Enfin bon, c'est surtout les mères qui se trouvent contraintes, et encore l'emprise est là, par leur enfant à se reconnaître pas suffisamment bonne mère, pour reprendre le terme de Winnicott. Et elles sont blessées, je dirais, dans leur amour propre, puisqu'elles ne peuvent pas faire face seules aux exigences de leur bébé. Alors, ce que très vite on essaye de faire comprendre à ces mamans, c'est qu'il y a aussi ce bébé-là, hein, qui est différent, qui est muni des caractéristiques singulières. Ce sont les siennes. Il est né dans un moment de la vie, éventuellement de la vie de ses parents, éventuellement difficile. Et lorsqu'on pointe ces choses-là, ça peut amener la prise de conscience des parents à être un peu moins douloureuse et de constater que c'est une impuissance passagère. Alors, certains bébés, bien sûr, présentent une grande labilité à guérir, je mettrai des guillemets, de leurs symptômes très rapidement, parfois après une seule consultation ou après une seule séance de thérapie, ce qui, d'un côté, procure une gratification aux parents, à la mère surtout, à cet âge-là, hein, mais qui pose quand même le problème de l'arrêt d'un traitement psychothérapeutique qui peut bénéficier d'un prolongement, qui peut avoir besoin d'une durée plus longue, souhaitable. Alors, certains thérapeutes disent « j'essaye de m'arranger », je pense à ce que dit Rosine Debray, « j'essaye de m'arranger pour que le bébé ne guérisse pas trop vite. À ce moment-là, il va pouvoir m'aider à soigner sa maman. » C'est pas si simple, mais bon. La rechute éventuelle ou la transformation d'un symptôme en un autre demeure naturellement toujours possible. Et ceci, d'autant plus, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que la thérapie soit trop courte, d'autant plus qu'aucune modification en profondeur ne peut être véritablement obtenue dans des interventions trop brèves. On peut penser quand même que dans certains cas, une mobilisation de surface qui va réduire les symptômes permet à la dyade mère-bébé d'interagir, de fonctionner sur un mode vivable et être suffisante dans certains cas. Je veux dire, il ne faut pas non plus toujours vouloir absolument faire une psychanalyse à long terme, au long cours de tous les parents qui ont des bébés avec des problématiques relationnelles un peu compliquées. Alors voilà ma conclusion. Je crois que les riches enseignements que l'on peut retirer de la pratique des traitements conjoints parents-bébé peuvent servir d'étayage pour des conduites éducatives stimulantes qui sont, elles, généralisables aux bébés et aux jeunes enfants et dans le cas où ceux-ci ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement thérapeutique plus poussé. On voit, par exemple, dans des lieux d'accueil, un travail très très intéressant fait simplement par des accueillantes qui n'ont pas de qualification particulière, mais qui peuvent écouter ce que va dire la maman de ses difficultés. Et certaines de ces difficultés se lèvent à ce moment-là simplement parce que la maman a pu les exprimer. Alors, évidemment, il y a des écarts, ceux-ci sont perceptibles dès le début de la vie, tous les bébés ne sont pas les mêmes. Il faut tenir compte de ces différences qui sont perceptibles très vite. Hein. Le bébé lui-même va, Serge Lebovici le disait, Brazelton aussi, c'est le bébé qui va donner à sa mère la capacité de le soigner. Alors, lorsque le milieu familial est insuffisamment porteur, il convient bien sûr de mettre en place les stratégies efficaces comme ces consultations thérapeutiques de Serge Lebovici ou bien des thérapies brèves ou longues qui peuvent aider au développement de l'appareil à penser. Alors ça, c'est bien sûr le début de la psychisation du bébé, c'est-à-dire que plus on va parler, plus le bébé va construire une sorte d'épaisseur psychique, non pas qu'il comprenne les mots, mais il est bercé par le rythme de ce qui lui est dit et il va commencer lui-même à étoffer son propre psychisme. Mais ceci, c'était d'abord, comme j'ai essayé de le montrer, sur la progressive possibilité de mettre en mots les états affectifs, violents et contrastés qui dominent la vie du bébé et du jeune enfant. Et c'est à ce prix-là qu'on parviendra à un véritable équilibre psychosomatique satisfaisant, garant et support de tous les apprentissages ultérieurs. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je vous écoute. 5 minutes. 5 minutes, excusez-moi, je vous avais prévenu, je suis bavarde, je ne sais pas m'arrêter. Mais quand même, si vous avez des questions, allons-y.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis surprise parce qu'on répète souvent aux mamans qu'elles ne s'inquiètent pas quand l'enfant ne prend pas son biberon, parce qu'on le lit même à peu près partout, un bébé ne se laisse jamais mourir de faim. C'est ce qu'on entend de tous les pédiatres, c'est ce qu'on entend dans tous les ouvrages, même un peu vulgarisés. Mm-hmm. Donc, votre conférence m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, c'est un leurre. Alors, un enfant peut présenter un symptôme et être capable de se laisser mourir de faim.
Oui, il faut savoir faire la différence. Hein. Je crois que les pédiatres, les médecins ont raison de dire aux mamans un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Pour une raison toute simple, c'est que si la maman se crispe sur le symptôme, effectivement, il va s'engager un bras de fer qui peut, lui, mettre en route une véritable anorexie. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a des bébés très différents et en plus, pour chaque bébé, il y a des périodes différentes. Et effectivement, un bébé peut avoir un moment, pas envie, pas une sorte de trou dans sa capacité à se nourrir, moment qu'il est important de respecter. Mais il est surtout important que la maman ne s'angoisse pas. Hein, d'où les conseils tout à fait adaptés qui sont donnés. Ce n'est que si cela dure trop longtemps et de manière massive, parce que il y a des bébés qui mangent très peu et ça leur suffit, momentanément au moins, et il y a les bébés qui ne vont pas s'alimenter du tout, ou qui vont tout vomir. Hein, je vous ai dit, il y a toute la gamme. Hein. C'est dans ce cas-là qu'il faut s'inquiéter, mais je crois que si on s'inquiète tout de suite, ou trop vite, c'est là que parfois la réponse de l'environnement va ancrer un système d'emprise, un système de blocage en bras de fer qui peut lui générer une anorexie. Je crois que l'anorexie est rarement spontanée. Elle va être générée par les réactions de l'environnement. C'est pareil à l'adolescence d'ailleurs. Je dirais que ce que je vous ai raconté, on peut tout à fait le transposer dans le cadre des anorexiques adolescentes. C'est un peu le même phénomène, le même processus d'emprise, c'est-à-dire on ne veut pas, la personne qui se met dans une situation de force comme ça, ne veut pas que le besoin, on va dire, hein, ça c'est pour les adolescentes, le besoin domine. Et elle va lutter contre le besoin, contre la sensation de faim. Oui.
J'aurais voulu vous demander si vous en étiez arrivé à la conclusion que Poussette s'était incarnée sur un moi sacrificiel et si elle était venue faire travailler ses parents sur une histoire d'héritage transgénérationnel.
Alors ça, c'est très gentil de me poser cette question qui ramène à notre livre et puis qui fait penser un petit peu à ce qui va suivre, c'est-à-dire que vous allez écouter Maryse Vaillant aussi cet après-midi. Alors je crois que la notion de sacrifice est là. On pourrait se poser la question. Vous avez raison, je ne sais pas répondre parce que je crois que c'était moins mortifère que cela. Puisque la maman a quand même assez vite pu elle-même penser et réaménager en elle le deuil de sa propre mère. Donc je ne dirais pas que son bébé était là comme un sacrifice, mais c'est tout de même, et j'ai commencé comme ça, c'est tout de même un enfant de remplacement, un enfant offert à cette mère. On peut l'entendre des deux manières. Je ne crois pas dans ce cas précis. Mais vous avez raison de poser la question parce qu'il faut se la poser à chaque cas.
Merci, madame.
Merci.